Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'armée a pris le pouvoir au Zimbabwe. Robert Mugabe est retenu à son domicile. Le président sud-africain Jacob Zuma se pose en médiateur. Nous ferons le point sur la situation avec Noé Hochet-Baudin. Le président libanais accuse l'Arabie saoudite de détenir Saad Hariri. Le premier ministre démissionnaire n'est toujours pas rentré au Liban. Jean-Yves Le Drian, qui s'envole ce soir pour Riyad, devrait le rencontrer demain. Le seuil de l'irréversible a été franchi, déclare Emmanuel Macron à la tribune de la COP23. Les équilibres de la planète sont prêts à rompre. Le président français appelle par ailleurs l'Europe à compenser le manque de financement du groupe d'experts du climat de l'ONU. Nous retrouverons Véronique Roberotte à Bonn. Pour elle, la domination masculine ne devait pas être une fatalité. Femme insoumise et passionnée, anthropologue dans la cité, Françoise Héritier s'est éteinte la nuit dernière à 84 ans. La situation est encore très confuse au Zimbabwe. Le porte-parole des forces armées assure qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Mais hier, l'armée s'est bel et bien emparée de points clés du centre-ville de la capitale Harare. Soldats et véhicules blindés contrôlent la radio-télévision nationale et bloquent les voies d'accès aux principaux ministères, au Parlement et aux tribunaux. Officiellement donc, il s'agit seulement de chasser les criminels dans l'entourage du président Robert Mugabe. Des arrestations ont eu lieu, notamment celle du ministre des Finances, et des rumeurs font état de la fuite possible de l'épouse du président Grace Mugabe. Depuis Pretoria, le président sud-africain Jacob Zuma a lancé un appel au calme. Les précisions de Noé Hochet-Baudin à Johannesburg.
Jacob Zuma s'est mué en médiateur de la crise zimbabwéenne. Ce matin, il a joint Robert Mugabe au téléphone. Le président zimbabwéen s'est dit confiné dans sa maison, mais s'est dit en bonne santé. Il semblerait que Robert Mugabe soit en résidence surveillée, entouré par les soldats des forces zimbabwéennes. Le président sud-africain a affirmé être également en contact avec l'état-major de l'armée. Il a appelé les deux parties au calme et espère un règlement pacifique du conflit qui les oppose. C'est au nom de la SADC, l'Organisation régionale d'Afrique australe, que s'est exprimé Jacob Zuma. Il s'oppose à un changement qui serait contraire à la constitution du pays, ce qui ne serait pas en accord avec les exigences de la SADC, l'organisation régionale qui pourrait d'ailleurs être utile, selon lui, en cas d'impasse politique au Zimbabwe. Jacob Zuma a également envoyé une délégation sud-africaine dans le pays ce midi. Son ministre de la Défense et son ministre de la Sécurité d'État ont pris la direction d'Harare aujourd'hui pour rencontrer les deux parties.
L'Union africaine demande à l'armée zimbabwéenne de cesser son action. Elle exige le respect de l'ordre constitutionnel. Le Conseil de sécurité de l'ONU décide de renforcer sa mission de paix en Centrafrique. Fin octobre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'était rendu sur place et il avait réclamé un renforcement de la MINUSCA. De 900 casques bleus, il vient d'obtenir gain de cause. Il faut dire que l'année a été marquée par une dégradation de la sécurité dans un pays où la moitié de la population dépend de l'aide internationale. En place depuis septembre 2014, la MINUSCA compte actuellement 10 000 policiers et soldats et 2 500 personnels civils. Les précisions de Saber Gendoubi à Bangui.
Dans un pays en proie à un conflit depuis 2013, la force onusienne a un volet qui œuvre pour la cohésion. Elle organise ainsi des événements sportifs, des concerts. Elle est en outre un soutien essentiel à la restauration de l'autorité de l'État. Elle participe notamment à la réhabilitation des infrastructures. Mais là où la MINUSCA est la plus attendue, c'est dans son appui à la sécurisation du pays. Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.
Sans elle, le pays difficilement pourrait en ce moment répondre à la crise. Elle est là en train d'appuyer les forces de sécurité en attendant justement que les FACA, les forces armées centrafricaines, soient également sur le terrain pour qu'ensemble elle travaille sur cet aspect.
Et oui, la MINUSCA est avant tout une mission de maintien de la paix. Encore faut-il que la paix soit un état avéré dans le pays. Ici, c'est plutôt la peur qui règne depuis l'attaque à la grenade de samedi dernier à Bangui. Symphorien, un jeune papa, est en colère contre la MINUSCA.
Nos secteurs ne sont pas sécurisés. Il n'y a pas de MINUSCA là-bas. Nous, là-bas, nous avons eu vraiment peur. On dort pas la nuit, il y a le coup de fusil un peu partout dans les quartiers.
Et oui, la force onusienne n'a pas bonne presse auprès de la population, et ce, alors qu'elle paye un lourd tribut. Depuis janvier 2017, 13 casques bleus sont morts au combat, sans compter ceux qui sont morts de maladies ou accidentés, et les dizaines de blessés.
Saber Gendoubi à Bangui, en République centrafricaine. Saad Hariri est-il retenu contre son gré en Arabie Saoudite? La rumeur enfle depuis la démission du Premier ministre libanais et son départ précipité pour Riyad le 4 novembre. Ce matin, le président libanais a haussé le ton. Michel Aoun considère désormais que Saad Hariri est retenu en otage. Il dit craindre pour sa vie et accuse l'Iran et le Hezbollah libanais de semer la discorde dans le monde arabe. Les précisions de notre correspondant au Liban, Omar Waman.
Pour de nombreux Libanais, l'attente est insoutenable. 12 jours que Saad Hariri a démissionné depuis l'Arabie Saoudite dans des conditions obscures. Dimanche soir, l'espoir était pourtant permis. Après l'entretien télévisé donné par le ministre démissionnaire, sa première prise de parole publique depuis son départ du Liban. Lors de l'interview, il avait promis un retour rapide dans les 3 prochains jours. Une promesse synonyme de soulagement pour des millions de Libanais gagnés par la peur d'une nouvelle guerre. Mais les soupçons d'enlèvement et de détention qui pèsent sur les raisons de son séjour prolongé dans la capitale saoudienne n'ont pas été dissipés pour autant. C'est pourquoi Saad Hariri s'est de nouveau exprimé hier publiquement, cette fois sur Twitter, un message dans lequel il déclare qu'il se porte bien et qu'il rentrerait au Liban avant jeudi soir. Mais cela n'a pas suffi à convaincre le président libanais Michel Aoun, qui a accusé ce matin les autorités saoudiennes de le retenir contre son gré et menace désormais de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. L'espoir réside également dans l'action de la France. Allié historique, Emmanuel Macron est à la manœuvre pour empêcher le Liban de renouer avec l'instabilité. Le président français envoie dès ce soir son ministre des Affaires étrangères à Riyad, Jean-Yves Le Drian, afin de tenter de faire la lumière sur le sort de l'homme le plus attendu du Liban.
L'accord de Paris sur le climat n'est qu'un début. D'autres mesures doivent être prises pour lutter contre le réchauffement de la planète. C'est ce qu'a souligné Angela Merkel à la tribune de la COP23 à Bonn, en Allemagne. Comme la chancelière, le président français a insisté cet après-midi sur la nécessité d'agir sans tarder. Et pour compenser la perte de financement américain, il a appelé l'Europe à se substituer aux États-Unis et à garantir au GIEC, le groupe d'experts du climat de l'ONU, des moyens suffisants. Emmanuel Macron.
Sur le plan international, nous avons besoin d'une expertise scientifique constamment alimentée qui éclaire la décision. Le GIEC est une des composantes majeures de ce travail. Or, il est aujourd'hui menacé. Menacé par la décision des États-Unis de ne pas garantir le financement. Je souhaite donc que l'Europe se substitue aux Américains. Je souhaite que le maximum d'États européens puissent à nos côtés, justement, tous ensemble, compenser la perte de financement américain, mais je peux vous garantir d'ores et déjà qu'à partir de 2018, pas un centime ne manquera au GIEC pour fonctionner et continuer à éclairer nos décisions. Pour ce qui relève de la France, nous devons accélérer cette transformation avec une obsession qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et que personne ne se trompe ici. Prétendre que nous devrions accélérer les fermetures de centrales nucléaires sans avoir répondu préalablement à cela, c'est nous condamner dans les prochaines années à réouvrir des centrales à charbon ou des centrales thermiques, et donc faire l'inverse de ce que nous sommes en train de nous engager à faire. La priorité, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Aucun recul sur notre engagement pour le climat n'a été fait, au contraire. Des décisions responsables ont été prises, qui ont abandonné les fétiches irréalistes, mais ont pris avant tout un agenda de décision crédible, volontariste, qui supposera l'engagement de tous.
Emmanuel Macron à Bonn, à la COP23 que vous suivez, Véronique Rebeyrotte. Alors on vient d'entendre le ton énergique du chef de l'État, mais sur le fond, il n'y a pas eu cet après-midi d'annonce fracassante.
Non, comme la chancelière allemande Angela Merkel qui s'est exprimée donc juste avant le président français, Emmanuel Macron s'est voulu en fait pragmatique. Il n'a pas fait d'annonce nouvelle irréaliste. Alors la chancelière allemande demande, elle, du temps pour sortir à la fois du nucléaire et du charbon. Trop d'emplois sont en jeu, a-t-elle dit à la tribune. Paris envisagera de son côté de fermer eh bien quelques centrales nucléaires quand la France saura mieux stocker les énergies renouvelables. Emmanuel Macron qui appelle de ses voeux la réalisation de projets communs européens sur le stockage de ces énergies énergies aléatoires. Pas question, donc, comme l'Allemagne, de passer par la case charbon pour se substituer à l'atome. Alors, vous l'avez aussi entendu, le thermomètre de la conscience climatique, la conscience climatique de la planète, le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts du climat, bien, continuera de fonctionner comme avant. Le monde peut parfaitement se passer de l'argent de Donald Trump, t'a dit en substance Emmanuel Macron. Il ne l'a pas dit, bien sûr, comme ça. Le nom du président américain hors jeu, hein, dans cette lutte contre le réchauffement climatique n'a même jamais été prononcé. Le budget du GIEC, donc prix Nobel de la paix en 2007, est toutefois modeste, on va dire, moins de 10 millions d'euros par an. Les dollars américains manqueront surtout pour le fonds vert pour le climat, qui devra être alimenté à hauteur de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. La contribution américaine était la plus importante, hein, à hauteur de 3 milliards. C'est donc cette aide internationale difficile ici à Bonn à mobiliser pour aider les pays déjà affectés par le réchauffement qu'il va falloir revoir, a dit Emmanuel Macron, et même vite, dès le 12 décembre prochain. Ce sera le sommet climat organisé par la France pour mobiliser à la fois des financements publics et privés, aussi privés, j'allais dire, et même surtout privés, l'espère le président Macron.
Véronique Rebérotte en direct de Bonn avec Jean-André Giannecchi à la technique. L'Union européenne reste très réservée vis-à-vis du projet de réforme de la justice en Pologne, et ce malgré les retouches apportées par le président Duda. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, demande une nouvelle fois à Varsovie de respecter les règles de l'Union européenne sur l'indépendance de la justice. Autre sujet de débat houleux en ce moment en Pologne, l'interruption volontaire de grossesse. Le mois dernier, les pro-avortements avaient déposé une proposition d'initiative citoyenne pour libéraliser l'IVG. Aujourd'hui, c'est le comité Stop Avortement qui dépose la pétition au Parlement, Nadine Epstein.
Deux comités opposés ont lancé des initiatives citoyennes. 40 000 signatures en faveur de la libération de l'avortement ont été recueillies par Sauvons les femmes, qui demande également l'accès à la contraception, à la pilule du lendemain et à l'éducation sexuelle à l'école. Ce collectif dénonce la législation en cours, une des plus sévères d'Europe. L'IVG n'est autorisée qu'en cas d'anomalie du fœtus ou si la santé ou la vie de la mère est en péril dans les cas de viol. De plus, aider une femme à avorter est un crime passible de 3 ans de prison. Officiellement, il y a en Pologne entre 600 et 1000 avortements pour 10 millions de filles. Les ONG parlent, elles, de 100 à 150 000 IVG par an. Nombreuses sont celles qui vont avorter de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Les pro-IVG ont donc déposé au Parlement polonais une proposition abolissant l'interdiction d'interrompre une grossesse. En face, les partisans d'une législation encore plus rigide, le comité Stop Avortement, a lui collecté plus de 200 000 signatures en soutien à une demande de lois plus sévères, notamment qui réclament l'interdiction de l'avortement eugénique en cas de malformation du fœtus. L'Église catholique, le président et la Première ministre soutiennent ce projet.
Le Venezuela obtient un répit financier. Il a signé avec Moscou un accord de restructuration de sa dette. Cela permettra à Caracas d'effectuer des versements minimes à Moscou au cours des 6 prochaines années et d'honorer ses obligations auprès des autres créanciers. Après-midi agité à l'Assemblée nationale, dans un climat très tendu, des députés insoumis et communistes ont quitté l'hémicycle pendant les questions au gouvernement. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
À l'origine de ce coup d'éclat, le rappel des mésaventures d'un groupe d'élus français qui voulait rencontrer le dirigeant palestinien emprisonné, Marwan Margouti, et l'avocat franco-palestinien Salah Amouri. Les autorités israéliennes avaient répondu qu'elles leur refuseraient l'entrée sur leur territoire.
Et cet après-midi, quand Meir Habib, député UDI franco-israélien, pose sa question au gouvernement, il attaque directement la délégation de députés France Insoumise et communistes. Des propos virulents qu'il répète devant la presse dans la salle des quatre colonnes.
Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Salah Amouri et Barghouti sont des terroristes. On peut être pour la cause palestinienne, on ne doit pas soutenir des terroristes. On ne peut pas aller en Israël, pourquoi voir Barghouti? Qui c'est Barghouti? Barghouti, il a assassiné des civils. Alors peut-être que pour certains, on a le droit d'assassiner des civils en Israël. Vous savez ce que je leur conseille à ces gens? C'est d'aller voir Salah, mais un autre Salah. Salah Abdeslam à Fleury-Mérogis, parce que c'est exactement la même chose. Alors on doit être unis contre le terrorisme, on peut être à gauche, on peut être au centre, on peut être à droite, mais eux ils ont une obsession, c'est la haine d'Israël, c'est dans leur ADN, c'est plus fort que tout.
Clémentine Autain, députée France Insoumise, qui fait partie de cette délégation, quitte immédiatement l'hémicycle, accompagnée par des députés PCF. Elle dénonce l'hystérisation des débats et un climat dangereux pour la démocratie.
C'est un appel au calme, c'est un appel à l'intelligence, c'est un appel au respect des uns et des autres et d'arrêter de caricaturer les positions des uns et des autres. Et moi, je suis du côté de la paix, du côté de la lutte contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme. Je le dis très clairement, très clairement. Et dans le même temps, nous sommes aujourd'hui confrontés à une menace de la part d'Israël qui, tout simplement, nous dit que nous ne sommes pas les bienvenus en Israël. C'est là la question politique de la semaine. Nous n'acceptons pas d'être insultés comme cela, et notamment dans un moment difficile. Et je trouve que, j'ai entendu aussi Manuel Valls ce matin, j'ai l'impression que notre pays est en train de s'embarquer dans des débats publics confisqués. Beaucoup de raccourcis avec un niveau d'insulte qui est inadmissible. Vous voyez, je vous le dis, je trouve ça révoltant.
La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, répond à l'interpellation de Meyer Habib dans l'hémicycle. Elle rappelle que la France a demandé la libération du franco-palestinien Salah Hamouri et encourage Israël à laisser les députés accéder à l'ensemble des interlocuteurs qu'ils souhaitent rencontrer pour remplir, je cite, leur mission d'information.
Merci Sophie Delpont. C'est la plus grande commande de l'histoire d'Airbus. À l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, l'avionneur européen a placé 430 moyens courriers remotorisés de la famille A320neo auprès du fonds d'investissement spécialisé dans le transport aérien Indigo Partners, et ce pour un montant équivalent à 42 milliards d'euros. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Le défi maintenant, ça va être de réussir à satisfaire cette commande historique.
Et oui, avec cette commande historique, Airbus a un carnet de commandes plein pour les 9 prochaines années. Si cela est bon pour l'emploi en France, la croissance de 6% par an du secteur aéronautique commence à avoir des répercussions sur les cadences de production des sous-traitants, ce qui demande une grosse capacité d'adaptation pour les entreprises comme Thales, qui produit par exemple les systèmes de navigation des Airbus A320 et A321. Vincent Megailès en est le directeur de la production.
On utilise beaucoup le phénomène de la digitalisation qui consiste à numériser et à exploiter les données qui sortent de nos usines de production de manière à optimiser tous les process et à vraiment transformer notre industrie qui était une industrie traditionnelle 1.0 en industrie 4.0 optimisée. Ça peut passer par des robots, mais ça passe surtout principalement par une meilleure utilisation des données que l'on génère nous-mêmes sur nos propres équipements, de manière à optimiser nos flux et nos procédés de production. On est sur des augmentations de cadence qui se situent dans des pourcentages à 2 chiffres régulièrement.
Mais ces nouveaux procédés sont très lourds à instaurer pour les PME, car s'ils représentent un investissement important et du temps de gagner, ce n'est pas toujours facile car elles n'ont pas forcément la trésorerie nécessaire pour investir dans des robots ou des nouveaux ordinateurs. Du coup, elles ont plus de mal à respecter les délais. Quant à Airbus, pour tenir la cadence, il produira 60 à 320 par mois contre 50 aujourd'hui, à partir de 2019. Pour cela, Airbus va s'appuyer sur sa chaîne de production d'Alabama à Mobile aux États-Unis. C'est d'ailleurs là que seront produits les 134 appareils de la compagnie low-cost américaine Frontier Airlines qui ont été commandés ce matin à Dubaï.
Hakim Kasmi. Elle se qualifiait d'anthropologue dans la cité. Françoise Héritier s'est éteinte la nuit dernière. Elle avait 84 ans. Disciple de Lévi-Strauss, elle s'était passionnée pour l'étude des sociétés africaines. Françoise Héritier a été la deuxième femme, après Jacqueline de Romilly, à enseigner au Collège de France. C'était une grande féministe et elle suivait de près l'affaire Weinstein et ses suites. Il y a 10 jours, la journaliste au Monde, Annick Cogent, a publié un entretien avec elle. Annick Cogent.
Quelle chance, quel bonheur d'avoir pu rencontrer Françoise Héritier dans ces moments intenses, je crois, dans l'histoire des femmes. Elle se passionnait pour ce qui se passait. Elle lisait beaucoup, toujours très attentive à prendre le pouls des mouvements de femmes. Et évidemment, cette actualité autour de l'affaire Weinstein et de tout le reste, finalement, lui était très important, très cher. Ce qui m'amusait, c'est qu'elle me parlait de l'hashtag MeToo. Alors, elle n'avait pas d'ordinateur, elle ne regardait pas Internet. Ce hashtag MeToo lui était formidablement sympathique. Que la honte change de camp, disait-elle. Que les femmes prennent enfin la parole, qu'elles se sentent plus seules. Elles l'ont été pendant des millénaires. Et je lui rappelais combien, pour beaucoup de jeunes femmes, ça représentait beaucoup de choses, qu'on se référait à elle et qu'elle était la grande dame qui, précisément, nous donnait beaucoup d'espoir. Et bien là, elle avait son bon sourire et il y avait des petites larmes qui pointaient dans ses yeux.
Annick Cogent avec Sandrine et toi, Andegue. La domination des hommes sur les femmes n'est pas innée, expliquait Françoise Héritier. Mais nos structures sociales et nos structures mentales remontent à très loin. L'anthropologue précisait sa pensée dans l'émission Les Racines du Ciel du 26 avril 2015, au micro de Frédéric Lenoir et Leïli Anvar.
La chose qui fait impression sur les êtres humains, c'est une inégalité troublante, vraiment troublante. C'est que les hommes n'ont pas la capacité de se reproduire directement dans leur propre corps. Et c'est pas que les femmes ont la capacité de le faire, mais que les hommes n'aient pas la capacité de le faire. Comment se fait-il qu'eux ne peuvent pas faire des garçons directement de leur corps, alors que les femmes font des filles directement de leur propre corps? Et vous avez beaucoup de sociétés où l'on pense que si les hommes n'intervenaient pas avec le rapport sexuel, les femmes feraient quand même des filles, spontanément. C'est dans leur nature de faire des filles, d'accord? Bon. Donc les hommes ne peuvent pas avoir des fils. Comment avoir des fils? Ils découvrent que les femmes font des fils après les rapports sexuels, s'il y a des rapports sexuels. L'idée qui naît alors, c'est qu'il est possible pour les hommes de forcer le bon vouloir féminin à faire des fils, mais il convient à ce moment-là pour cela de s'approprier des femmes. Donc une femme devient à ce moment-là un bien d'échange.
Françoise Héritier, que vous pourrez entendre encore ce soir sur France Culture à 22h15 avec la rediffusion d'un entretien accordé au philosophe Frédéric Worms le 13 février dernier. La météo, demain temps gris et humide au nord, soleil au sud. À noter que Air Paris, qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoit un épisode de pollution aux particules fines. L'après-midi, il fera 5 à 10 degrés sur le quart nord-est, 10 à 14 ailleurs, jusqu'à 20 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.